Grand Angle sur Radio Orient.
Merci de vous joindre à nous sur Radio Orient, avec vous Nadia Bencher pour le Grand Angle Hebdo. Au sommaire, le 4 août 2020, l'une des plus grandes explosions non nucléaires de l'histoire a dévasté le port de Beyrouth. 5 ans après avoir été grièvement blessé dans la déflagration, le psychothérapeute Ronnie Mekataf se souvient et livre un témoignage intime et engagé dans la blessure qui guérit. Liban toujours, et cette décision inédite, le gouvernement libanais entend bien désarmer le Hezbollah. Il a chargé l'armée d'établir un plan en ce sens d'ici la fin de l'année. Marwan Hamadeh, député et ancien ministre libanais, revient sur la portée réelle de cette annonce qu'il estime être un tournant pour le Liban. Dans ce numéro, nous reviendrons sur l'intention de plusieurs pays de reconnaître l'État de Palestine lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies. Dominique Vidal, journaliste, historien et spécialiste du Proche-Orient, revient sur l'impact que peut avoir cette reconnaissance. Enfin, l'enjeu de la pollution plastique. 180 pays sont réunis depuis mardi à Genève pour plancher sur les blocages et les perspectives. Hassan Tlili, journaliste spécialisé dans les questions environnementales, fera le point sur le sujet. Le 4 août 2020, une déflagration dévastatrice faisait plus de 220 morts et 6500 blessés dans le port de Beyrouth. Parmi eux, Ronnie Mekataf, psychothérapeute grièvement blessé à l'œil droit. 5 ans plus tard, il témoigne dans La blessure qui guérit. Il revient sur cette journée, sur le traumatisme, la résilience et la reconstruction.
Contrairement à mon habitude, comme on était déjà au mois d'août, j'étais arrivé à Beyrouth environ une demi-heure avant l'explosion. Et pour ma malchance, je me trouvais très très près du port, dans un appartement dans le quartier de Jemaïse, pour un rendez-vous avec une personne qui faisait un film sur mes activités. Et voilà, donc quelques minutes après être arrivé dans l'appartement où devait se tenir cette réunion, il y a eu cette première explosion, voilà.
Quelle image vous gardez de cette journée ?
Alors, il y en a plusieurs, mais peut-être celle qui me vient en tête comme ça, c'est cette explosion très puissante. Comme il y avait eu le premier boom, il y avait eu déjà, si vous voulez, un intérêt. Je regardais par le balcon vers le port pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et il y a eu cette deuxième explosion vraiment presque nucléaire, très très puissante, avec du rouge, du noir, de la fumée, et ce blast qui envoyait des milliers de débris dans ma direction. Oui, ça, c'est peut-être l'image la plus forte qui me reste.
Vous mettez combien de temps à réaliser véritablement ce qui est en train de se passer ?
Ça a dû prendre quelques secondes, je dois avouer, parce qu'on est un peu sidéré, sans très bien comprendre ce qui se passe. Et au moment où j'ai compris, je me suis retourné pour rentrer dans l'appartement. Et c'est à ce moment-là que j'ai été projeté, mais vraiment comme une brindille. Je me suis retrouvé en l'air sans aucune autonomie, ni possibilité de faire quoi que ce soit, et projeté contre, je ne sais pas, le mur ou la porte. Et heureusement que j'ai été projeté à l'intérieur de l'appartement, parce que si j'avais été jeté par-dessus le balcon, je ne serais pas là aujourd'hui.
Alors, vous avez perdu votre œil dans ce drame. J'aimerais savoir à quoi ressemble votre vie depuis.
On s'habitue, vous savez, la blessure physique. C'est vrai qu'il y a eu quelques mois, disons, d'adaptation, surtout que je ne savais pas très bien si j'allais pouvoir recouvrer la vue. Ce n'est que quelques mois plus tard que voilà, il a fallu se rendre à l'évidence que ça serait pas possible. Donc ça a été graduel et peut-être ça m'a permis d'accepter l'idée que voilà, que je ne pourrais plus voir de cet œil.
Ronnie Mekataf, psychothérapeute, auteur de La blessure qui guérit. Une décision inédite a été prise à Beyrouth. Le Conseil des ministres a officiellement chargé l'armée libanaise de préparer un plan de désarmement du Hezbollah d'ici la fin de l'année. Mais si la décision du gouvernement semble claire, sa mise en œuvre s'annonce complexe et hautement politique, d'autant plus que le Hezbollah a d'ores et déjà annoncé la couleur et dit qu'il ferait comme si cette décision n'existait pas. Mais selon Marwan Hamadeh, député et ancien ministre libanais, la marge de manœuvre du parti chiite est très restreinte.
Écoutez, la manœuvre est très réduite. Elle est réduite parce qu'il évolue par cette attitude rigide entre deux risques et deux périls. Celle d'une reprise des attaques israéliennes et peut-être du développement de ces attaques à de nouvelles régions du Liban et également à un choc avec les autres composantes du pays, c'est-à-dire les autres communautés, les autres partis, qui sont unanimes à réclamer le désarmement du Hezbollah. Tout le monde est désarmé, tout le monde doit devenir désarmé, tout le monde doit rester désarmé, seule l'armée libanaise doit prévaloir. Ceci demande évidemment un soutien également étranger à cette armée qui n'est pas encore super puissante, mais la France peut conduire, et elle a essayé de conduire, mais les Américains sont assez dubitatifs là-dessus. Ils veulent des mesures libanaises pour renforcer l'armée libanaise. Les Arabes sont également, comme je l'ai dit, assez intraitables sur ce problème, et donc le Hezbollah n'a pas les éléments qu'il avait quand il a fait quand il s'est lancé dans les fameux assassinats qui ont commencé avec Hariri et qui se sont ensuite traduits par des coups d'État, investir Beyrouth et la mainmise sur l'État libanais qui hier a, au moins sur le papier, cessé d'être.
Marwan Hamadeh, député et ancien ministre libanais. Trois pays du G7, la France, le Royaume-Uni et le Canada, mais aussi l'Australie ou encore le Portugal, ont récemment annoncé leur intention de reconnaître l'État de Palestine lors de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre. Une prise de position diplomatique forte sur fond de guerre à Gaza, de crise humanitaire aiguë et d'impasse politique. Pour Dominique Vidal, journaliste et historien spécialiste du Proche-Orient, ces annonces traduisent un malaise croissant face à l'enlisement du conflit. Il revient également sur l'impact que peuvent avoir cette série de reconnaissances.
Je crois que le problème est surtout pour Israël. La prise de conscience, sans doute Netanyahou et ses sbires ne l'avaient pas senti jusque-là, d'un isolement de la guerre israélienne dans l'opinion publique internationale. Beaucoup plus fort et beaucoup plus spectaculaire que ce n'était le cas jusque-là. Je rappelle que dans toutes les grandes capitales, on a vu des manifestations considérables, et même à Paris, où il y avait un certain retard, disons, on a eu aussi ces derniers jours de très grandes manifestations.
Le gouvernement israélien, justement, après déclaration canadienne ou son intention de vouloir reconnaître l'État de Palestine en septembre, parle d'un cadeau au Hamas et d'un obstacle au cessez-le-feu. Ces reconnaissances risquent-elles de radicaliser encore plus les positions ou au contraire de forcer un rééquilibrage ?
J'ai du mal à comprendre ce que le gouvernement israélien veut dire, parce que depuis plus que 20 ans, la droite israélienne a toujours joué avec le Hamas pour diviser le camp palestinien et affaiblir en particulier l'autorité palestinienne, qui n'a plus ni autorité ni politique palestinienne indépendante, d'ailleurs il faut le dire. Donc on ne comprend pas ce que veut dire Netanyahou, sinon qu'il cherche à dissimuler son échec, car c'est bien un échec que de voir aujourd'hui d'importants pays, suivant l'exemple donné par Emmanuel Macron, affirmer leur volonté de reconnaître l'État de Palestine.
Pour en revenir au Canada, comme d'ailleurs les autres pays, il conditionne sa reconnaissance à des engagements palestiniens, réformes, élections, démilitarisation. Ces conditions sont-elles, à votre avis, réalistes dans la situation actuelle ?
Je ne crois pas que ces conditions soient autre chose que des formules pour arrondir un peu les angles. Il n'y a évidemment aucune perspective de changement profond de l'autorité palestinienne dans une situation où le peuple qu'elle est censée représenter est l'objet d'un génocide sans précédent. Je veux le dire pour vos auditeurs, moi je travaille sur le conflit israélo-palestinien depuis près de 50 ans et je n'ai jamais vécu une page aussi noire, aussi insupportable. Je ne parle pas simplement au niveau politique, je veux dire au niveau humain simplement. C'est-à-dire le sort qui est réservé aux Gazaouis par Israël est absolument sans précédent.
Dominique Vidal, journaliste et historien spécialiste du Proche-Orient. C'est un moment décisif pour la planète. À Genève, les représentants de 184 pays sont réunis depuis mardi sous l'égide de l'ONU pour tenter de finaliser un traité mondial contre la pollution plastique. Les discussions sont ardues, mais l'enjeu est immense. Le constat est alarmant. La production de plastique s'est accrue de manière vertigineuse entre 1950 et 2025. ONG et scientifiques alertent des effets sur la santé et l'environnement, car comme l'explique Hassan Tlili, journaliste spécialisé dans les questions environnementales, une grande partie de ces plastiques finit dans la nature et surtout les océans.
Une bonne partie de ces plastiques sont déversés dans les mers et les océans. Et une bonne partie de ces plastiques, justement déversés dans les océans, se décomposent petit à petit et constituent ce qu'on appelle les nanoplastiques qui constituent un danger pour les écosystèmes marins et puis pour la santé, parce qu'il s'est avéré d'après les recherches scientifiques que effectivement chacun de nous ingère une quantité de plastique et que cela nuit à notre santé, à la santé des animaux, à la santé surtout des produits qu'on consomme et qui proviennent des mers. Du coup, la question est de savoir si on peut continuer aujourd'hui à être contaminé ou si on peut trouver d'autres moyens, une autre alternative, et elle existe, pour nous débarrasser petit à petit des plastiques. C'est l'enjeu fondamental de ce round.
Hassan Tlili, quelles sont les régions les plus touchées de la planète ?
En fait, d'après les statistiques et d'après les études menées sur cette problématique, aucun pays au monde n'est vraiment épargné par ce phénomène. Parce que les plastiques se déplacent énormément et toutes les mers du monde, tous les océans sont contaminés et il suffit de parcourir n'importe quel endroit sur le globe pour se rendre compte qu'effectivement, on est en face d'un fléau mondial. Par conséquent, c'est une problématique mondiale et aucun pays ne peut se targuer aujourd'hui et dire « je suis à l'abri des plastiques » parce qu'il s'avère que tout le monde est dedans et que un effort individuel et un effort collectif est nécessaire pour qu'on puisse aller vers une voie qui mène à vraiment à autre chose, à des alternatives pour mettre fin aux usages, à la production des plastiques.
Hassan Tlili, journaliste spécialisé dans les questions environnementales. C'est la fin de ce grand angle hebdo. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur Radio Orient.
C'était Grand Angle sur Radio Orient.